Alors bonjour à vous tous, ceux que j'ai croisés, ceux que je n'ai pas encore croisés. Et donc effectivement, Matthieu nous l'a rappelé ce matin, dans le calendrier chrétien traditionnel, aujourd'hui c'est le dimanche des Rameaux, qui commémore l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, à l'occasion de la dernière Pâque qu'il a vécue avec ses disciples. Alors que Nicolas vient de faire part à toute l'assemblée de notre tristesse, de notre découragement devant la maladie de Thi, du retard pris de ce fait pour son arrivée parmi nous, alors qu'il nous a interpellés sur les épreuves, les attaques que les uns ou les autres sont en train d'affronter, parler de ce sujet du triomphe, de la joie, de l'exubérance de la foule, ça peut paraître complètement anachronique, hors sol. Et pourtant, deux enfants ce matin ont lu Jean 12 et Luc 19, et je vous propose de relire dans les quatre évangiles le court récit de cette entrée triomphale. Alors, j'attends que les textes s'affichent, voilà. Donc, dans Matthieu, au chapitre 21, les versets 6 et 9, les disciples partirent donc et suivirent les instructions de Jésus. Ils amenèrent l'ânesse et son petit et posèrent sur eux leur manteau. Et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leur manteau sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent le chemin. Et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, criait « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur, Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. » Marc, chapitre 11, versets 6 à 10. Ils répondirent comme Jésus le leur avait ordonné et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus et posèrent leur manteau sur son dos. Et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin. D'autres des branches vertes coupées dans les champs. La foule de la tête à la fin du cortège criait « Hosanna, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Béni soit le royaume qui vient, le royaume de David notre Père. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. » Continue, on relit Luc 19. Ceux qui l'avaient envoyé partirent et trouvèrent les choses comme Jésus l'avait dit. Au moment où il détachait l'ânon, ses propriétaires leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Et ils le conduisirent à Jésus. Après avoir posé leur manteau sur le dos de l'animal, ils y firent monter Jésus. Sur son passage, les gens étendaient leur manteau sur le chemin. Comme ils approchaient de Jérusalem, en descendant du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. « Béni soit le roi qui vient de la part du Seigneur, » disait-il. Et enfin, Jean 12. Le lendemain, une foule immense était à Jérusalem pour la fête. On apprit que Jésus était en chemin vers la ville. Alors les gens arrachèrent des rameaux aux palmiers et sortirent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur, vive le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon cette parole de l'Écriture. « Sois sans crainte, communauté de Sion, car ton roi vient monter sur un ânon. » Alors, après quelques commentaires sur ces trois passages, je vous propose de réfléchir à l'attitude que nous aurions pu avoir en de telles circonstances, puis de tourner nos regards vers un autre passage des Écritures qui nous parle de rameaux et d'espérance. Tout d'abord, des points communs. J'aimerais partager quelques observations à propos de ces quatre passages. Tout d'abord, la première, la plus évidente, est que ce récit de l'entrée triomphale de Jésus se retrouve dans les quatre évangiles. Ces quatre livres nous racontent l'histoire de Jésus et nous la connaissons aussi fort bien, ainsi fort bien, de sa naissance à sa mort et à sa résurrection. Et si vous êtes un lecteur régulier de la Bible, vous avez déjà pu remarquer ou étudier que les quatre évangiles ne relatent pas strictement les mêmes récits. C'est en lisant la globalité de ces quatre évangiles que l'on retrace la vie du Messie. Alors on connaît Matthieu, Marc et Luc comme les évangiles synoptiques. Ils présentent beaucoup de similitudes dans la progression du récit. Jean, quant à lui, a privilégié dans son récit la démonstration que Jésus est réellement le Fils de Dieu venu nous racheter de nos péchés. Son récit est donc un peu différent. Mais vous êtes-vous posé la question de savoir quels sont les récits qui sont communs aux quatre évangiles ? Je me suis posé la question en voyant que ce récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem est vraiment dans les quatre évangiles, puisqu'on vient de le lire. Alors j'ai fouillé un peu, j'ai trouvé un tableau qui présente tous les événements de la vie de Jésus relatés dans les quatre évangiles. Si ça vous intéresse, je pourrais vous l'envoyer. Mais j'ai pu constater une correspondance sur seulement trois événements de la vie de Jésus. Le ministère de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus. On les retrouve, alors je vous ai mis les références, si vous êtes intéressé, vous pouvez les noter. On retrouve donc dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, cet événement-là dans la vie de Jésus. La première multiplication des pains est également présente dans les quatre évangiles. Et enfin, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est quand même intéressant, je trouve que c'est interpellant. Et pour tous les autres événements de la vie de Jésus, ils sont seulement relatés dans trois évangiles au maximum, à la fois. Alors ça m'amène à une deuxième considération. Si les quatre évangélistes n'ont en commun que ces trois événements, c'est que ce sont des événements d'une grande importance. Et si on y réfléchit, le premier consacre Jésus comme fils de Dieu, puisque les cieux s'ouvrirent et on entendit une voix qui déclarait « Voici mon fils bien-aimé ». Donc Jésus est présenté dès le début de son ministère comme le fils de Dieu. Le deuxième événement montre sa puissance miraculeuse, cette multiplication des pains et des poissons pour une foule. Et le troisième événement établit qu'en entrant ainsi dans Jérusalem, Jésus revendiquait qu'il était publiquement le Messie. C'est là vraiment qu'il a dit « Je suis le roi », celui qui devait venir. Il était le Messie, le roi promis par les prophètes de l'Ancien Testament. Matthieu dit que le roi monté sur un ânon accomplissait avec précision la prophétie de Zacharie 9:9. « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Alors si on revient sur ce qui est relaté dans les passages que je vous ai lus, le fait d'étendre les tuniques et les manteaux sur le dos de l'ânon et sur le sol montre que la foule lui reconnaît aussi cette royauté. On retrouve une telle pratique, par exemple, en 2 Rois 9:13. De même, les branches et les palmes apportées par la foule ne correspondent pas à une tradition de Pâques, mais ça rappelle plutôt la fête des huttes, durant laquelle les Juifs coupent des branches pour construire des cabanes et se rappeler que le peuple a erré 40 ans dans le désert. C'est comme si tout à coup, l'entrée de Jésus dans Jérusalem les fait enfin sortir d'un désert eux aussi. Apporter des palmes s'est produit également en 164 avant Jésus-Christ, lorsque Simon Maccabée est entré triomphalement à Jérusalem en vainqueur des Syriens et que le temple profané a pu être purifié. La palme est alors devenue l'emblème du pays. C'est comme si la foule veut témoigner que Jésus va enfin purifier le pays de l'occupation romaine. Malheureusement, les gens du peuple n'ont pas loué Jésus parce qu'ils le reconnaissaient comme celui qui les sauverait du péché, mais ils l'ont accueilli parce qu'ils attendaient un Messie qui les dirigerait pour une révolte contre Rome. Beaucoup d'entre eux ne voyaient pas en Christ leur sauveur, mais ils espéraient qu'il deviendrait un grand libérateur séculier. Enfin, une dernière remarque, ces textes nous conduisent vers la joie, les paroles de Liesse, la bénédiction. Hosanna, béni soit celui qui... La signification du terme Hosanna est « Je te supplie de nous sauver » ou « S'il te plaît, délivre-nous ». Ça nous montre vraiment que pour certains, il y avait cette mesure de délivrance du peuple romain. Et le mot grec qui est souvent traduit par « béni », c'est « makarios », qui signifie « chanceux, heureux, élargi ou long ». « Makarios » est utilisé dans la Septante, la traduction de l'Ancien Testament en langue grecque, et dans le Nouveau Testament, pour définir le type de bonheur qui découle de la faveur divine. Par conséquent, ce mot est également traduit par « favorisé ». Et dans le Nouveau Testament, il a aussi le sens de « béni par Dieu ». Marie, la mère de Jésus, était bénie entre toutes les femmes dans Luc, au chapitre 1, les versets 42 à 45. C'était le Seigneur Dieu qui l'avait bénie et favorisée. Cet épisode nous montre donc une bonne disposition de cœur de la part de la foule, parce qu'elle est intimement persuadée que Jésus est le roi guerrier et victorieux, tellement attendu. Alors, quelle aurait été notre attitude ? Quelle est aujourd'hui notre attitude dans de telles circonstances ? Imaginez-vous être dans un état d'oppression constant, comme l'était le peuple avec l'occupation romaine. Imaginez-vous perdre vos terres, votre foyer, votre identité en tant que nation. Et si on y réfléchit, c'est ce que risquent ceux qui vivent actuellement dans des pays en guerre, comme l'Iran, l'Ukraine, le Liban, sans parler de guerres dont on ne parle plus, comme dans le Sahel ou en Éthiopie. Imaginez-vous être en proie à la maladie ou à des possessions démoniaques, comme ceux qui en ont été délivrés par Jésus. Tout à coup, cela vous touche votre réalité. Ou bien vous vous sentez loin de ces considérations, parce que tout ça, ce n'est pas votre vie. Mais alors, qu'est-ce que vous auriez fait devant Jésus, qui se positionne enfin comme un roi, un sauveur ? Qu'est-ce que vous auriez considéré ? Ou bien maintenant, si vous êtes dans un tel état, qu'est-ce que vous attendez ? Ceux qui l'ont accueilli comme un roi ont crié « Hosanna » parce qu'ils le reconnaissaient comme le fils de David qui vient au nom du Seigneur, l'ont aussitôt abandonné quand il ne s'est pas avéré à la hauteur de leurs attentes. Quelques jours après, ils ont crié « Crucifie-le ! » Ceux qui accueillaient Jésus en héros étaient les premiers à le rejeter. Ce matin, en démarrant notre culte et en nous identifiant au peuple, nous avons chanté « Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. » Ou bien « Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. » Nous avons chanté « Hosanna, Hosanna, Hosanna ». Et pourtant, si tout à coup nos épreuves deviennent tellement insupportables, allons-nous continuer à faire de même ? Notre Église semble être dans la joie, car nos finances se sont redressées et un pasteur que tous ont appris à aimer devait nous arriver. Des frères et des sœurs d'autres communautés ont commencé à partager nos locaux. Et puis, ce n'est pas depuis le début de cette semaine, mais depuis plusieurs semaines, nous voyons plusieurs parmi nous être attaqués de diverses manières. Si est malade, il doit se faire soigner avant d'imaginer pouvoir nous rejoindre. L'ADD est bouleversée. Nous nous retrouvons alors peut-être dans l'attitude du peuple d'Israël qui attendait un libérateur. Mais pour sortir de nos terribles difficultés, est-ce que nous comptons sur les réussites humaines ? Sur des critères humains, sur ce qui peut nous être proposé dans notre quotidien. J'ai parlé des pays en guerre. Est-ce que nous attendons, par exemple, seulement que Donald Trump et l'Iran trouvent un chemin de paix ? Ou bien est-ce que nous nous attendons d'abord à Dieu et nous intercédons avec ardeur pour les êtres humains qui sont pris entre les deux feux, Iran et Donald Trump ? Savons-nous témoigner de notre confiance en Dieu pour encourager notre prochain à s'attendre d'abord à lui et non aux compagnies d'assurance ou aux médecins et à la science? Toutes ces questions me travaillent moi aussi actuellement. Notre belle-fille doit faire face à la maladie. Comment lui montrer que Dieu veut être son rocher et son abri? Comment lui rappeler qu'il est venu sur terre pour la sauver et que c'est cela qui est le plus important, alors qu'elle doit supporter un traitement difficile et lourd pour plusieurs mois? Elle est en colère et elle se renferme, mais je ne peux pas la juger. Je ne vis pas ce qu'elle traverse. J'y assiste et je prie. Elle, de son côté, elle souffre dans son corps et elle souffre dans son cœur de maman. Pourquoi ses enfants doivent-ils supporter d'un seul coup de vivre avec une maman malade qui n'a plus la capacité provisoire de répondre à leurs attentes? Lorsque l'épreuve, lorsque les attaques surviennent, nous avons cette tendance parfois à accuser Dieu, à nous replier sur nous-mêmes, à ne plus fréquenter l'Église même, en faisant le dos rond, la tortue, l'escargot qui s'enferme dans sa coquille pour souffrir dans son coin. Pour être soulagés de nos charges, attendons-nous qu'un autre les porte à notre place? Thi aurait pu nous aider à nouveau, Nicolas et moi, à porter la charge pastorale de l'Église, mais ça ne sera pas encore maintenant. Ou bien au contraire, est-ce que nous gardons nos difficultés pour nous, pensant que les autres ont déjà assez à faire? Tout cela, ce n'est pas compter sur Dieu, mais c'est avancer avec nos propres forces déficientes. Alors je me suis posé la question, est-ce que dans la Bible, ailleurs, on nous parle d'un rameau? Qu'est-ce que ce rameau représente? Pas ce roi victorieux et guerrier, comme celui qui est attendu par les Israélites, mais un autre genre de roi. Et effectivement, Dieu dans sa parole nous parle d'un autre genre de rameau, celui planté par les hommes en comparaison d'un rameau que lui-même va planter. Et ce rameau, je l'ai trouvé dans Ézéchiel, au chapitre 17. Alors je vous lirai les versets 1 à 10, puis 22 à 24. L'Éternel m'adressa la parole et me dit, « Fils d'homme, propose une énigme, raconte une parabole à la communauté d'Israël. » Dis-leur, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Le grand aigle survint, ses ailes étaient grandes, son envergure était très large. Il était couvert d'un plumage épais, multicolore. L'aigle se rendit au Liban et saisit la cime d'un cèdre. Puis il arracha son rameau le plus élevé. Il l'emporta dans un pays de commerçants et il le déposa dans une ville de marchands. Puis il prit un plan du pays et le planta dans une pépinière. Il le mit comme un saule près des eaux abondantes. Le plant poussa et il devint un cep, étendant ses sarments. Mais il était de taille bien modeste. Ses sarments se tournaient vers l'aigle et ses racines restaient sous lui. Il se développa, produisit des rameaux et poussa des sarments. Puis il survint un autre grand aigle aux larges ailes, au plumage abondant. Et voici que la vigne, du champ où elle était plantée, étendit vers lui ses racines, étendit ses sarments de son côté pour se faire arroser par lui. Mais elle avait été plantée dans un bon champ, près des eaux abondantes, où elle poussait des rameaux et produisait du fruit, et où elle était devenue une superbe vigne. Dis-leur, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Va-t-elle prospérer ? Le premier aigle ne va-t-il pas arracher ses racines et la dépouiller de ses fruits pour les laisser sécher? Alors toutes les jeunes pousses se flétriront. Il ne faudra ni grands efforts, ni une armée nombreuse pour la déraciner complètement. Voici, elle était bien plantée, mais pourra-t-elle prospérer? Dès que le vent d'Orient se mettra à souffler sur elle, ne dessèchera-t-elle pas entièrement? Oui, sur le terrain même où elle avait poussé, elle desséchera. Puis au verset 22, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Je prendrai moi-même un rameau tendre de la cime du cèdre élevé et je le mettrai en terre. Je couperai un tendre rejeton du haut de ses branches et je le planterai moi-même sur une très haute montagne. Je le planterai sur une montagne élevée d'Israël. Il étendra ses branches et portera du fruit, et il deviendra un cèdre magnifique. Toutes sortes d'oiseaux habiteront dans sa ramure et viendront nicher à l'ombre de ses branches. Alors tous les arbres de la campagne reconnaîtront que moi, je suis l'Éternel, qui abaisse l'arbre élevé et qui élève celui qui était abaissé, qui fait sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, je le déclare et je le ferai. Alors, dans le passage que je n'ai pas lu entre ces deux textes, l'explication avec les rameaux et les aigles est donnée par Dieu. En comparant ces oiseaux au roi de Babylone, puis au roi installé par ce dernier pour diriger le peuple d'Israël. Ce passage nous montre que les hommes se confient dans les êtres humains pour venir à bout de leurs difficultés, mais finalement ils sont déçus, l'un écrase l'autre. Et Dieu ne valide pas ces solutions. Les choses ainsi mises en place ne durent pas. Et souvent, dans un problème, une difficulté, nous nous tournons vers ce que nous avons là devant nous sur la terre. Dieu nous encourage à nicher, au contraire, à l'ombre du cèdre magnifique qu'est Jésus. C'est de lui dont il dit, le rameau tendre de la cime du cèdre élevé, je le mettrai en terre, je couperai un tendre rejeton du haut de ses branches et je le planterai moi-même sur une très haute montagne. Et considérez comment il parle de ce rameau. Il parle de tendresse. Cela montre tout son amour pour celui qu'il va planter et enraciner en haut de la grande montagne. Pour les autres, il décrit leur grande taille, leur bel aspect, mais comme un constat, un fait établi. Lorsque nous aspirons à voir nos projets, nos souhaits se réaliser, justement, lorsque tout tombe, nous ne voyons que le bel aspect de ce que nous avions espéré. Une bonne santé, le bonheur, la joie. Mais nous n'essayons même pas d'imaginer que Dieu a prévu encore bien plus pour nous. Sur cette terre, oui, mais de façon certaine pour l'éternité. Pourtant, Dieu, lui, il voit ce qu'il envisage pour nous, avec l'amour infini qu'il éprouve pour nous. Et nous ne le comprenons pas toujours. Ce matin, il nous affirme qu'il est celui qui abaisse l'arbre élevé et qui élève celui qui était abaissé. Au cœur de nos épreuves et de nos doutes, apprenons à nous confier en celui qui n'est pas notre roi guerrier, mais en celui qui est notre tout. Alors en conclusion, j'aimerais vous encourager. L'histoire de l'entrée triomphale est riche en contrastes qui ont des applications concrètes pour les croyants. Le roi est venu en humble serviteur, monté sur un âne, pas sur un cheval galopant. Il ne portait pas d'habit royal, mais des vêtements pauvres et humbles. Jésus-Christ n'est pas venu en conquérant, pour dominer par la force comme le font les rois terrestres, mais avec amour, grâce et miséricorde, pour se sacrifier lui-même pour son peuple. Il n'est pas venu en roi à la tête d'une armée triomphante, mais comme un humble serviteur. Il ne conquiert pas les nations, mais les cœurs et les esprits. Son message est un message de paix avec Dieu, pas de paix temporelle. S'il a effectué son entrée triomphale dans nos cœurs, il y règne avec paix et amour. Nous pouvons avoir alors l'assurance qu'il se tient là, près de nous, et qu'il nous relève. Prions. Oui, Seigneur, lorsque les difficultés nous accablent, lorsque l'épreuve surgit, nous avons souvent cette tendance à t'accuser, à te reprocher des choses, à penser que tu étais le roi là qui avançait en triomphe et puis finalement c'est pas à la hauteur des choses. Mais nous nous trompons, nous nous égarons, nous laissons la porte ouverte aux malins dans ces conditions. Merci de nous rappeler ce matin que oui, tu es vraiment le roi triomphant, celui qui est venu pour nous racheter, celui qui est venu mourir à notre place sur la croix et qui en toutes circonstances te tient auprès de nous parce que tu n'es pas resté mort dans le tombeau mais tu es ressuscité, tu es vivant. Aide-nous Seigneur à nous tourner vers toi, à te faire confiance même si nous ne comprenons pas. Parce que tu es là, tu vis et tu règnes. En Jésus-Christ. Amen. Alors, pour donner suite à notre culte ce matin, nous vous proposons, si vous avez besoin de la prière de frères ou de sœurs dans votre lutte, dans vos épreuves, dans vos difficultés, pour les attaques que vous subissez, de vous lever pendant le chant que nous allons reprendre. Donc j'invite Dossel et le groupe de louanges à venir. Et nous allons rechanter Vase d'argile. Et donc il va y avoir des personnes qui vont se tenir disponibles pour prier pour vous. Il y aura deux personnes au fond près des chaises, deux ici, deux à côté de la porte. Et vraiment, si vous ressentez ce besoin que l'on prie pour vous, parce que ça devient trop difficile à supporter, alors n'hésitez pas, levez-vous. Pour les autres, je veux vous laisser avec cette parole d'envoi pour cette semaine. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent, dans Romains 12, 15. Et je vous remets, nous tous, à votre prière durant cette semaine. Donc sentez-vous libre de vous lever pour recevoir la prière, ou bien de partir pour une nouvelle semaine et de nous retrouver vendredi pour cette veillée de Pâques. Bonne semaine à tous et soyez dans la joie du Seigneur, quelles que soient vos circonstances. Amen.